Le 6 juin prochain, cela fera 20 ans que le Mac a abandonné l'architecture PowerPC pour passer sur des processeurs Intel, une transition qui n'aura pas pris beaucoup de temps étant donné qu'Apple a bouclé l'affaire en seulement 210 jours, soit environ 8 mois. La manœuvre a commencé avec un iMac et un MacBook Pro 15 pouces dévoilés en janvier 2006. Elle s'est terminée au mois d'août de la même année avec le Mac Pro. Apple avait mis les petits plats dans les grands pour cette révolution à l'échelle du Mac. Rosetta premier du nom permettait aux applications PowerPC de fonctionner sur les nouveaux Mac Intel sans recompilation. Comme pour les machines Apple Silicon, les binaires universels permettaient de télécharger une app Intel et PowerPC en un seul fichier. Cette transition a également apporté Bootcamp, attirant de nombreux utilisateurs effrayés par l'idée d'une machine tournant uniquement sur macOS. Ce roulement s'est globalement bien déroulé, bien que certains aient trouvé trop rapide la fin de la prise en charge du PowerPC. 15 ans plus tard, Apple annonçait une nouvelle transition pour passer sur ses propres puces Apple Silicon. Comment s'est déroulée l'ère Intel, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Pierre, spécialiste hardware de Mac Génération, qui a encore plusieurs Mac Intel chez lui. Salut Pierre.
Salut Félix.
Et je suis également avec Jean-Baptiste Leheu, un grand spécialiste de l'histoire d'Apple et créateur du blog L'Aventure Apple. Salut JB.
Bonjour Félix, bonjour Pierre et bonjour tout le monde.
On va commencer par se remettre un peu dans le contexte. Pierre, pourquoi Apple a-t-elle décidé de passer chez Intel? Les processeurs PowerPC, ils étaient à la ramasse à l'époque?
Ouais, bah la raison du passage à Intel, elle est simple. Hein. C'est les Mac portables, ce qu'on appelait encore à l'époque des PowerBook. Le MacBook n'existait pas. Motorola, qui avait créé les PowerPC G4, avait arrêté de faire évoluer ses puces et il visait plutôt le monde professionnel avec des processeurs pour ce qu'on appelle l'embarqué. Alors, l'embarqué, c'est tous les domaines où vous n'avez pas un ordinateur devant vous, donc ça peut être un routeur, un téléviseur, plein de choses. Tous les endroits où il y a un processeur, mais pas vraiment d'interface. Le G4, c'était une puce intéressante parce que ça consommait assez peu pour l'époque. Mais bah, les fréquences et les performances étaient aussi assez faibles, en fait. Il n'y avait pas, par exemple, de dual cœur à l'époque. Donc, c'était un seul cœur, c'était assez lent. À côté des G4, Apple, il travaillait avec IBM pour les G5, qui était vraiment le processeur professionnel dans les grosses tours, qui était dérivé de puces professionnelles issues de serveurs. Le G5, il avait un problème. Il consommait beaucoup trop pour les PC portables, même s'il avait de bonnes performances. Donc Apple n'a jamais fait de PowerBook G5. De ce qu'on sait, ils ont essayé, mais en gros, c'était pas concluant parce que ça consommait trop, donc il fallait descendre les performances, et du coup on arrivait aux performances des G4. Et les autres processeurs PowerPC de l'époque n'étaient pas vraiment intéressants. Parce qu'en gros, il y en avait dans les consoles de jeux.
Ouais.
La PlayStation 3 et la Xbox 360, c'est des PowerPC, mais ils étaient assez lents. Ils étaient vraiment faits pour un usage, vraiment pour les jeux, et donc pour un usage informatique classique, c'était pas génial. Et il y avait une société qui a décidé de faire un jour un processeur PowerPC basse consommation. Elle s'appelait PASEMI. Elle a été rachetée par Apple, en fait, un peu plus tard, après le passage en 2008, et c'est elle qui a permis de développé un des premiers processeurs ARM qu'Apple a fait lui-même, c'est le A6, donc il dérive vraiment des travaux d'un PowerPC à l'origine. Mais bon, bah du coup, en 2005, Apple, ils avaient senti le vent tourner. Il n'y avait plus beaucoup de PowerPC et les processeurs ARM n'étaient pas du tout valables à l'époque, et donc ils sont passés chez Intel. Ça avait été anticipé hein, depuis un moment.
Ouais.
Parce qu'en fait, macOS 10, ça tournait sur les puces x86 depuis le début. Et en fait, macOS 10, c'est Next Step, donc qui était le système d'exploitation de la boîte de Steve Jobs qui avait été rachetée. Et en fait, avant le rachat, ça tournait déjà sur les processeurs x86. Chez Apple, le projet, il avait un nom de code assez rigolo. Alors, ça s'appelait Marklar. Si vous connaissez ce Spark, ça je suppose, en fait, c'est le nom d'une race d'extraterrestres dans les premières saisons. Alors voilà. Donc si vous cherchez un peu sur des vieux sites Apple, on trouve assez régulièrement des références au projet Marklar. J'ai une ancienne connaissance par exemple qui avait vu un Mac Intel sous macOS 10 Panther, donc avant la transition, dans un labo, enfin dans un truc secret, avant la transition.
Ok, ok.
Et puis 2005 surtout, c'était quand même une bonne année pour Intel, parce qu'en fait, ils avaient abandonné le Pentium 4. Alors, Pentium 4, c'était le processeur du début des années 2000 qui était plutôt un échec. Voilà. C'était pas très performant, ça avait plein de défauts. Ils avaient créé en parallèle le Pentium M, qui était un processeur pour les PC portables, justement, et donc bien adapté au Mac portable, ce qui est devenu le premier Core Duo, donc qui avait deux cœurs, et dans la majorité des Mac Intel les premiers, justement, bah, c'était une grande première, on avait deux cœurs. Il n'y a que un modèle de Mac Mini où il y avait un seul cœur.
Ok.
Et donc, voilà, Intel est arrivé avec quelque chose qui réglait vraiment le problème d'Apple, c'est-à-dire un processeur qui permettait une bonne autonomie pour des PC portables et de bonnes performances, les deux en même temps.
JB, comment elle s'est déroulée, la transition? Moi, j'ai connu que celle de Intel vers Apple Silicon, et globalement, ça s'est quand même bien déroulé. De ce que j'ai lu, il n'y a pas eu de catastrophe pour le passage à Intel.
Non, il n'y a pas eu de catastrophe, ça s'est plutôt bien passé. Pierre en parlait un petit peu, l'annonce elle est faite en juin 2005 pendant une conférence de développeurs Apple. Alors d'un côté c'est une vraie surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Les utilisateurs Apple avaient un peu une haine ou une gentille détestation d'Intel un peu génétique, c'était historique. Ouais. Et en même temps, Pierre le rappelait, macOS 10 était issu d'un système Next qui lui-même tournait sur de nombreuses plateformes. Donc finalement, c'était une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas, mais tout bien réfléchi, c'était pas si surprenant qu'Apple ait continué de développer son système de sorte à ce qu'il puisse tourner sur d'autres systèmes. Le message de Steve Jobs quand il annonce la transition, il est très clair, hein, c'est les promesses du PowerPC n'ont pas été tenues. Lui-même s'était engagé à fournir des G5 à 3 GHz qui sont jamais arrivés, le PowerBook G5 qui a jamais pu être lancé non plus, et il s'est voulu tout de suite très rassurant. Alors en gros, il n'a pas parlé du PowerPC, hein. Il a dit on passe chez Intel, point, c'était pas son truc de ressasser le passé. Donc il a tout de suite fait une démo de macOS 10 Tiger qui tournait sur un PC Intel. Il a expliqué qu'il fallait pas être inquiet parce que Apple était prête, c'était pas une décision de dernière minute, tout était fait en grand secret depuis des années pour que ça puisse se passer. Et puis surtout, on l'a un peu oublié, mais déjà à l'époque, Apple travaillait, mais on le verra, on en reparlera, mais beaucoup moins que ces dernières années. Mais Apple travaillait en vue d'une possible transition. Rosetta, c'était un gros morceau d'émulation qui avait été quand même simplifié par l'investissement d'Apple dans le développement des logiciels. Xcode existait depuis un petit moment. Xcode, c'était un outil d'Apple qui permettait de développer, de compiler des logiciels. À l'époque, on utilisait aussi beaucoup CodeWarrior. CodeWarrior, c'était un outil de développement de logiciels qui était très apprécié par les développeurs du monde Apple. Et cet outil-là n'était pas dans la confidence. Donc, heureusement qu'une bonne partie des logiciels étaient déjà compilés sous Xcode, parce que, évidemment, Apple s'était facilité la transition à elle-même. Et on reviendra sur le fait que, lors de la dernière transition, ce problème avait totalement disparu. Et il faut aller à peine plus d'un an, en fait, pour que la transition soit faite. Dans le courant de l'année 2006, on voit apparaître des nouveaux modèles tous les mois, tous les deux mois. Donc la première réaction, je disais, c'est de la surprise. Il y a un petit peu un choc. Pour certains, il y a un sentiment d'avoir été floué. Parce que quand vous avez payé très cher un G5, dont on vous disait dans le discours marketing que c'était ce qui se faisait de plus puissant, on se souvient de publicités avec des chars d'assaut, des trucs comme ça, avec des Pentium posés sur des escargots, quoi. Il y avait vraiment un sentiment anti-Intel qui était en parallèle du sentiment anti-Windows, qui occupait vraiment le devant du terrain. Et donc finalement, il y a plein de petites choses négatives qui se sont passées dans l'esprit des utilisateurs. Déjà à l'époque aussi, il y avait beaucoup de logiciels qui n'étaient pas bien compatibles avec Rosetta. Alors, Rosetta, c'était impressionnant, ça permettait de faire tourner des applications PowerPC sur un Mac Intel, mais c'était pas compatible avec tout. Tout ce qui était extension, les ajouts pour le système, des logiciels assez spécialisés ou très professionnels qui faisaient appel, par exemple, à Altivec, qui était un jeu d'instructions spécifique du G4 et repris sur le G5. Tout ça, globalement, ça tournait pas ou pas trop. Donc il y a des gens qui n'ont pas pu tout de suite changer de Mac, ou quand ils ont changé de Mac, il a fallu qu'ils changent aussi de logiciel. Ah, puis il y avait un petit côté trahison aussi, hein, parce que bon, et puis c'était pas la première fois, parce que entre Steve Jobs serrant la main de Bill Gates pour sauver Apple à son retour, et puis là le passage chez Intel, ça commençait à faire beaucoup, quoi. Mais assez rapidement, les utilisateurs ont été rassurés parce que finalement, déjà, c'était une sorte d'assurance vie. Passer chez Intel, ça voulait dire ne plus risquer de décrocher, ne plus être tout le temps dans cette guéguerre, dans cette comparaison, à trouver que le logiciel va plus vite dans un cas, mais moins vite dans l'autre, qui chauffe plus ou qui chauffe moins. Là, on avait confiance. On savait qu'Apple avait une solution qui, dans tous les cas, était la même que la concurrence. Donc, si la concurrence marchait bien, on marchait bien. Si la concurrence ralentissait, on ralentissait, mais en tout cas, on ne serait pas moins bon que les autres. Et puis après, il y a eu une autre expérience qui était que c'était fluide, ça marchait bien, et les développeurs se sont vite adaptés au niveau de l'efficacité énergétique, c'était vraiment pas mal. Et puis il y avait Bootcamp, on en a parlé, faire tourner Windows sur son Mac. Donc ouais, la transition, elle s'est bien passée, elle était sûrement moins, c'était moins un cas d'école peut-être que celle qu'on a vécue plus récemment, mais elle s'est vraiment bien passée.
Ouais, sauf pour Office et Adobe, quoi.
Voilà, c'était les deux très très gros logiciels qui étaient souvent développés, bah, pas forcément en respectant toutes les conditions d'Apple, en utilisant de la compilation de bas niveau, des codes très orientés PowerPC. Et donc forcément, le passage à Intel a été un peu compliqué.
Il a fallu longtemps, hein. De mémoire, la première version de Office pour Intel, c'est la 2008, je crois.
Oui, et ça a bloqué pas mal de gens qui sont restés sur leur ancien Mac, ou alors qui ont basculé. Donc moi, j'avais fait partie de ceux-là, qui étaient passés sur OpenOffice, histoire de voir un peu comment ça se passait, ou c'était peut-être LibreOffice à l'époque, d'ailleurs. Mais oui, ça a remis beaucoup de choses en question.
Si, d'ailleurs, on ne l'a pas noté, mais... J'y pense parce que j'en ai un à côté de moi. En 2005, en fait, le premier Mac Intel, justement, je parlais du Pentium 4 qui était un mauvais processeur. Le premier Mac Intel, en fait, il avait un Pentium 4. C'est un kit de développement qui a été fourni aux développeurs à l'époque. Et j'en ai récupéré un quelques années plus tard, même si normalement, ils auraient dû être retournés chez Apple. Mais voilà, hein, de temps en temps, on trouve des choses comme ça. Et donc oui, c'est une carte mère Intel de PC à peine modifiée qui est dans un boîtier de Power Mac G5 okay. Avec Pentium 4 et c'est un ordinateur plutôt lent mais c'est assez amusant à utiliser.
T'avais pas fait un papier là-dessus ? Ça me dit quelque chose.
On a fait un sujet là-dessus, ouais, parce que j'aime bien les kits de développement et donc j'ai les deux d'ailleurs. J'ai aussi récupéré un kit de développement ARM l'année dernière parce que là, même chose... Normalement, Apple les a récupérés, mais il y a de temps en temps des développeurs qui les ont gardés. Okay. En fait.
Bah, je mettrai les liens dans la description du podcast. Pierre, Intel, ils étaient au top de leur forme en 2006. C'était le seul partenaire envisageable pour Apple.
Alors oui, très clairement. D'abord parce que, donc, voilà, je l'ai dit, ils avaient les Pentium M et les Core Duo qui étaient de bons processeurs.
Ouais.
Et surtout, ils avaient annoncé une nouvelle gamme qui s'appelait ce qu'on appelle le Core 2 Duo, qui est une évolution... qui était vraiment très bien. Parce que les Core Duo, ils avaient un défaut. C'est des processeurs qui étaient uniquement 32 bits. Et donc Apple mettait en avant beaucoup le 64 bits des G5 et ce genre de choses. Et dans les premiers MacBook Pro, c'est un processeur 32 bits qui n'a pas été utilisé très longtemps, qui avait quelques défauts. C'est vraiment un processeur de transition où ils n'ont pas tellement eu le choix. Mais on est assez rapidement passé au Core 2 Duo qui était un équivalent 64 bits extrêmement efficace. Très très bien. Après, bah, faut le dire aussi, voilà, vers 2005-2006, il n'y avait pas grand monde en fait sur le marché. Donc, en x86, en gros, alors il y avait quelques petits acteurs, mais qui existent toujours, mais qui n'ont aucun intérêt, qui sont tout simplement incapables de fournir une machine de guerre comme Apple. Il y avait AMD, mais AMD c'était encore un challenger en fait, donc c'était pas c'est pas comme maintenant où ils ont les meilleurs processeurs. Voilà, ils avaient des processeurs intéressants, mais ça reste une plus petite société. Pas nécessairement capable de fournir Apple, même chose. Qui était plus vu aussi comme un challenger, pas du tout comme un acteur majeur dans le domaine. Et tous les autres jeux d'instruction comme on peut avoir maintenant. Voilà, donc les processeurs ARM comme on a maintenant, ça existait, mais c'était vraiment que dans des téléphones. Et quand je dis téléphone, c'est vraiment, pas dans des smartphones qui n'existaient pas vraiment sous la forme qu'on connaît actuellement en 2005. Le RISC-V, dont on a déjà parlé dans des articles, ça n'existait pas. Voilà, ça a été inventé 5 ans plus tard. Et les audios d'instruction, c'était vraiment plutôt en perte de vitesse, donc il en restait quelques-uns, mais en gros, le marché, c'était vraiment soit le x86, soit le PowerPC à l'époque. Okay. Et du coup, bah, pendant 10 ans environ, Intel, franchement, c'était un partenaire intéressant, quoi, parce que ils avançaient, ils fournissaient des nouveaux processeurs de façon régulière, ils étaient les meilleurs dans la gravure. Enfin voilà, on a eu les Core de Duo, on a eu les Core, les premiers Core, deuxième, troisième génération, tout ça. Tout se passait bien. À peu près jusque 2015, en fait, en gros, un petit peu avant, mais en gros, en 2015, ils ont voulu graver en 14 nanomètres et ils n'ont pas réussi. Vraiment, donc ils ont eu un gros problème, ils n'ont jamais réussi à stabiliser correctement ça, et ils ont commencé à se faire rattraper par TSMC notamment. Et puis bah, surtout, ils avaient sorti les cores de sixième génération, alors c'est Skylake. Ils se sont dit à l'époque qu'ils n'avaient plus du tout de concurrence, ils se sont dit personne ne va nous rattraper. Voilà, ils ont dit, les dirigeants d'Intel de l'époque ont pensé on est meilleurs, personne ne va nous rattraper, et du coup, ils ont commencé un peu à se débarrasser des meilleurs ingénieurs qui sont partis un peu partout, et ils se sont retrouvés avec rien. Et donc, quand AMD est revenu en 2017 avec les Ryzen, chez Intel, en fait, ils n'avaient rien pour aller en face. Même chose quand les premiers processeurs ARM un peu performants sont apparus, même chose chez Intel, ils ont juste fait évoluer Skylake, mais très peu en fait. Ils ont mis plus de cœurs et tout ça sur une gravure qui n'évoluait pas. Et donc pendant 5 ans, Intel, ils se retrouvaient à faire des processeurs qui consommaient de plus en plus pour des performances pas forcément meilleures. Le temps de recréer des équipes pour travailler sur la suite. Et c'est peu probablement ce qui a commencé à embêter Apple. Parce que vers 2015, Apple, ils ont sorti le MacBook Retina, qui est un ordinateur tout petit, tout léger, tout fin, très bien, hein, mais dont le processeur était pas assez puissant. Voilà. Apple voulait faire un ordinateur sans ventilation, comme le MacBook Air actuel en fait. Sauf que le MacBook Retina, du coup, ils ont dû prendre un core de 5e ou 6e génération, où ils ont dû vraiment baisser les fréquences pour que ça tienne sans ventilation. Et c'est un ordinateur qui est vraiment lent. Voilà, ma femme en a un. En été, il ne faut pas trop pousser, parce que sinon, on a un message qui nous dit je vais fermer des choses, parce que sinon,
Ah oui,
ça
quel
va
temps
s'arrêter,
ça.
quoi. Donc, c'est très compliqué. Je pense que voilà, c'est vraiment vers 2015-2016, quand Apple a voulu faire des ordinateurs très fins, que les défauts d'Intel ont été mis en avant, quoi, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des choses qui consommaient assez peu et qui émettait assez peu de chaleur que pour rester dans des ordinateurs très fins.
JB, les relations Apple-Intel pendant ces 15 années, c'est passé comment?
Ah, c'était génial. Pour nous, les utilisateurs, en tout cas, parce qu'on était des vrais gamins, quoi. Apple tapait en permanence sur le monde PC. C'était bien, parce que Apple, c'était une petite entreprise à l'époque, hein. Rien à voir avec ce qu'elle est devenue ensuite. C'était un petit challenger. Donc, bah, comme toujours dans ces cas-là, on a besoin d'ennemis. Donc, l'ennemi, ça a été IBM pendant longtemps, ensuite ça a été Microsoft, ça a été Intel, maintenant, ou ensuite, on va dire, il y a eu Google, il y a eu Samsung. Maintenant, c'est un petit peu différent, Apple est plus le challenger, même c'est souvent le leader sur beaucoup de marchés, donc elle se fait plus discrète. Mais ouais, dans la communication d'Apple, et puis évidemment tout autour, dans les magazines, dans les revues, dans les sites web, on tapait en permanence sur le monde PC. Donc on se moquait de Windows, de ses bugs, de ses erreurs d'interface, on se moquait des processeurs Intel, j'en parlais tout à l'heure, mais Apple elle-même a sorti une publicité où on voyait, deux publicités même, il y en a une où on voyait un processeur Intel Pentium posé sur un escargot qui se traînait à l'écran, là. Et il y en avait une autre où on voyait des ingénieurs de chez Intel dans leur combinaison blanche qui prenaient feu, en fait, parce que c'était l'époque où il y avait des problèmes. Alors, ça devait être, Pierre sait ça mieux que moi, mais ça devait être le Pentium 4 qui chauffait tellement qu'il y avait des problèmes de refroidissement et d'incendie potentiel. Donc, ouais, on s'amusait bien parce qu'en plus, le Power PC, il faut être honnête, au début, c'était une vraie réussite. Il faut se remettre un petit peu dans le début des années 90. Le Mac, il est sur des processeurs 68K. En face, on a des 386, des 486, des trucs comme ça. Et puis d'un coup, Apple fait alliance, bah, déjà à ce moment-là, avec un de ses ennemis, IBM. Elle garde Motorola aussi dans l'alliance parce qu'elle a besoin de faire fabriquer les processeurs. Donc elle garde son allié historique. Et tous les trois, ils lancent un processeur qu'on appelait RISC, donc un processeur avec un jeu d'instructions réduit. Là où Intel restait sur un processeur complexe, le CISC, Alors à l'époque, c'était vraiment, c'était une doctrine, quoi. C'était presque une religion. C'était le risque, c'est l'avenir, le cisque, c'est le passé, c'est l'impasse. Et puis c'était l'époque où on lançait le multimédia, la vidéo, la 3D, tout ça, c'était tout neuf, hein, pour tout le monde. Donc il y avait besoin de puissance, on avait des écrans plus grands, toute la gamme passait en couleur, il y avait encore des écrans noir et blanc au début des années 90. Quoi. C'était tout un monde qui changeait. Et les premiers processeurs PowerPC, le 601, le 603, le 604, bah, ils nous faisaient rêver. À chaque génération, c'était plus puissant, beaucoup plus puissant, les usages de l'ordinateur évoluaient. Et puis ensuite, quand même, ça a ralenti. Bon, il y a eu un moment où il s'est un peu plus rien passé. Heureusement, on a vu arriver le G3, qui était une grosse amélioration du PowerPC 603. Là aussi, avec un gros discours marketing, parce qu'on aurait pu l'appeler le 603+, et puis aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Mais ils sont arrivés, ils l'ont appelé 3G, quoi, G3, troisième génération. Ça a remis une pièce dans la machine. Le G4, le G5, comme Pierre le rappelait, ça cachait un petit peu la poussière sous le tapis, parce que certes, ce n'était pas des mauvais processeurs, mais ça cachait une mésentente entre les trois membres de l'Alliance, des différences d'objectifs entre eux, une faiblesse du marché, une absence de puces pour les portables. Donc en fait, taper sur Intel pendant ce temps-là, ben ça détourne un petit peu l'attention des problèmes, et puis ça entretenait la ferveur des clients, ça soudait la communauté. Un truc tout bête, hein, on a quand même gardé, Apple a réussi à un deal, c'est la seule marque d'ordinateur qui, quand elle est passée chez Intel, a réussi à obtenir l'autorisation de ne pas mettre le sticker Intel Inside sur ses machines. Et ça, c'est un héritage de l'histoire, en fait. Le lien entre Intel et Apple, il est complètement ambivalent, parce que d'un côté, il y a tout ce que je viens de dire, mais dans l'arrière-boutique, tout ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, Steve Jobs, il a toujours eu de très bonnes relations avec les équipes d'Intel. Il s'entretenait régulièrement avec l'ancien PDG d'Intel, qui s'appelait Andy Grove, qui était pour lui un peu un mentor sur la manière de travailler, la manière de développer une entreprise. Et même après le départ de Andy Grove, c'est Otellini qui a repris la main. Il s'entendait bien aussi avec Steve Jobs. D'ailleurs, il est venu, quand Steve Jobs a annoncé la transition, il est venu sur scène. C'était même un peu ridicule parce qu'il était habillé avec la même tenue blanche, la tenue stérile là, des usines de fabrication de processeurs. Il était habillé dans cette même tenue que celle qu'on voyait dans les pubs Intel avec les ingénieurs qui prenaient feu quelques mois plus tôt. Donc c'était très étonnant, c'était à la fois... moi j'ai vécu ça comme ça, je me suis dit, mais comment hein, le PDG d'Intel, qui remporte une grande victoire quand même, il va équiper les Mac, il va équiper l'ennemi historique. Apple reconnaît que la bonne solution pour les ordinateurs, c'est Intel. Comment il a pu accepter la petite humiliation de venir déguisé comme ça, plutôt que de venir en costume cravate ou je sais pas quoi, un truc de PDG quoi. Mais finalement il y avait un tel gain des deux côtés. Apple se sortait de l'ornière du PowerPC et pouvait reprendre la main sur le développement de ses ordinateurs, et Intel est régné en maître. Ils étaient seuls, ils avaient remporté le dernier marché qui leur manquait. Donc ça, c'est un truc à ne pas oublier, parce qu'aujourd'hui, où on voit souvent Samsung ou Google comme un peu des ennemis, il ne faut pas oublier que c'est aussi des fournisseurs, c'est des partenaires commerciaux. Donc, je pense que le fait qu'Apple aujourd'hui soit une énorme machine, une énorme entreprise qui n'a plus besoin vraiment d'entretenir sa communauté en se moquant des autres, fait qu'on a perdu ça. Et finalement, je pense que c'est pas un mal, parce qu'on n'a pas besoin de taper sur les concurrents pour exister en tant qu'entreprise ou en tant que communauté.
Pierre, les processeurs Intel dans les Macs, c'était des modèles particuliers. Il me semble qu'Intel gérait la partie graphique des MacBooks avec le chipset intégré, mais sinon il y avait des cartes graphiques AMD, c'est ça ?
Oui et non. En fait, il y a eu quelques processeurs qui ont été faits à peu près pour Apple, on va dire. Voilà. Dans le premier MacBook Air, par exemple, qui est vraiment des premiers ultra-portables au sens actuel du terme, Intel a fait un agencement spécifique pour la façon dont la puce est placée sur la carte mère. Mais après, ça reste un processeur comme un autre. Hein. C'est vraiment juste ce qu'on appelle le packaging, en fait. Il y a eu parfois des adaptations exprès pour Apple. Voilà, il y a quelques Mac Pro qui ont des processeurs un peu particuliers, où il manque certains composants pour l'intégration. Mais dans l'ensemble, ils n'ont pas fait des trucs exprès pour Apple. Le problème principal, en fait, c'est que c'est Intel, c'est une grosse boîte avec de l'inertie. Hein. On le voit très bien maintenant parce qu'ils vont mal à cause de ça. C'est une boîte qui travaille pour plein de gens. Donc, en fait, le problème d'Apple, c'est que, par exemple, quand les ingénieurs disent on a besoin d'une mémoire basse consommation pour augmenter l'autonomie de nos Mac, hein, ce qu'on a maintenant, de la mémoire, ce qu'on appelle de la LPDDR pour low power. Les chipsets Intel, ça prend du temps parce que les chipsets Intel ils sont prévus plusieurs années à l'avance et donc il faut intégrer la technologie, tout ça. Donc, c'est des choses qui ont sûrement aussi un peu créé le changement vers les puces ARM parce que justement Intel réagit pas très vite à ça. Ce qui a eu comme problème après sur les cartes graphiques, Apple a travaillé beaucoup avec Nvidia. Vers 2008-2009, en fait, Apple a travaillé à équiper pas mal de trucs avec des puces Nvidia qui géraient le processeur. Mais il y a eu un problème. En fait, si vous, alors ceux qui ont eu un MacBook Pro en 2007, comme moi, le sont sûrement, en 2007, il y a eu un problème sur un type de carte graphique précis dans les Mac portables, les GeForce 8600M, qui sont toutes tombées en panne. Quand je dis toutes, c'est toutes panne de 80%, hein, presque. C'est vraiment très compliqué d'en trouver un où elle fonctionne encore. C'est lié à la réglementation européenne qui a demandé qu'on enlève le plomb dans les soudures. Parce que voilà, c'est toxique et donc on a essayé de trouver un peu autre chose. À l'époque, on ne savait pas trop faire le remplacement. Donc Nvidia a eu un gros problème sur ces puces-là qui se dessoudaient d'elles-mêmes avec le temps à cause de la chaleur. Tombé en panne, il y a eu. Tous les fabricants ont été touchés, mais du coup, ça s'est mal passé avec Apple. Or, on n'a pas les détails exacts, mais de ce qu'on sait à peu près, c'est qu'en gros, Nvidia n'a pas nécessairement voulu payer pour tous les retours. Et du coup, ils se sont disputés. Donc, il y a eu encore des cartes graphiques Nvidia dans les Mac jusque 2013-2014, mais après, ça a été que de l'AMD. Ce qui n'était pas un très bon choix, hein. AMD, alors, maintenant, ils sont à peu près revenus dans les cartes graphiques, ils ont des choses intéressantes, mais disons qu'à cette époque-là, c'était le second choix. Faut être clair, les GeForce étaient meilleurs, c'était plus intéressant, et on s'est retrouvé dans les Mac avec des cartes graphiques pas nécessairement adaptées à des PC, à des ordinateurs portables. Et du coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont fait que je pense qu'à Apple, à un moment, ils se sont dit, on va le faire nous-mêmes. Ils ont toujours essayé de se différencier un peu pour faire croire qu'ils n'avaient pas exactement la même chose. Donc parfois, ils ont renommé des cartes graphiques. Donc il y a des cartes, il y a un nom précis dans les Mac qui n'est pas le même que l'équivalent PC parce qu'ils ont modifié la fréquence et ce genre de choses. Le seul cas où Intel a visiblement fait un processeur pour Apple, Apple l'a pas utilisé. C'est un peu particulier. Alors voilà, il y a un processeur en fait Intel avec une carte graphique AMD intégrée. Ça existe, c'est un core de 7e génération, très précis, un modèle très particulier. Moi, de ce que j'avais comme information, ça a été fait pour Apple. Quand on regarde comment ça fonctionne, ça a été fait pour des MacBook Pro. Hein, il n'y a pas tellement de doute quand on voit comment ça fonctionne. Et Apple ne l'a jamais intégré. Et j'ai jamais vu passer de prototype, alors que c'est un sujet que j'aime bien suivre. Du coup, voilà, Intel en a vendu dans quelques mini-PC dans un coin, mais voilà, on sait que c'est un truc qui a été fait pour Apple et qu'Apple a jamais intégré. Mais c'est vrai que du coup, ouais, dans toute la création, on sent bien que Apple aurait voulu faire plus de choses, intégrer des choses vraiment particulières, faire avancer un peu. Et que Intel, et voilà, Intel, c'est une grosse boîte qui ne suit pas nécessairement ce genre de choses, qui doit travailler pour ses centaines et milliers de clients. Et donc qui ne peut pas s'amplifier ou intégrer une nouvelle technologie parce qu'elle vient de sortir pour un de ses clients, même si c'est un client qui vend 5 millions de machines par trimestre.
Les Mac Intel, c'était aussi la bonne époque de Bootcamp qui permettait d'installer Windows et donc d'utiliser de nombreuses apps incompatibles nativement. JB, la fonction, elle a permis de vendre un paquet de Mac aux hérétiques d'Apple, non? La communauté Apple, elle l'a bien vécu ce tournant?
C'était une époque un peu particulière en fait. C'est l'époque où on a vu des Macs apparaître un peu partout. Ça avait commencé un petit peu avant. Moi, je dirais que ça a commencé vers 2002-2003, quand les iBooks sont passés au G4, qu'on a commencé à avoir des machines qui étaient plus abordables, avec une bonne autonomie. Et puis le passage au MacBook, donc là pour le coup les petits MacBook Intel en plastique, il y avait un modèle blanc, un modèle noir, ça a fait naître tout un marché qui s'est débloqué. Et on a commencé à voir, bah, par exemple dans les trains, moi je me souviens de cette époque-là parce que je prenais souvent le train, c'était impressionnant parce que avant, ouais, aller jusqu'à 2002, 2003, quand on voyait quelqu'un avec un Mac dans le train, on se disait bonjour, et puis on discutait un peu parce que bah, on faisait partie de la communauté Apple. Et puis en 2006, 2007, ça s'est mis à pousser partout. Je parle même pas de l'effet de l'iPod. Alors là, c'était encore autre chose. L'iPod, ouais, ça a duré un an. Pendant un an, c'était un truc d'utilisateur de Mac. Et après, c'était le lecteur MP3 de tout le monde. Et donc, ouais, ça a vraiment fait exploser le marché, dans le bon sens, hein. Des tas de gens se sont intéressés à ces machines d'Apple qui étaient petites, qui étaient compactes, qui avaient une bonne autonomie, qui avaient bah, cette espèce de système pas très connu, là, Mac OS X, on sait pas ce que c'est, mais c'est joli, ça tourne bien, il n'y a pas tous les bugs des Windows de l'époque. Et puis, comme tu dis, bah ouais, ça fait tourner Windows. On peut mettre Windows, quoi. Moi, je pense que c'était surtout une fonction rassurante, parce que, en tout cas, de l'expérience que j'ai eue, que j'ai vue autour de moi, personne n'a acheté un MacBook pour faire tourner Windows, parce que ça restait quand même un peu cher par rapport au PC de l'époque, qui lui était moins cher et moins bien. Hein. Moi, je faisais souvent la remarque, hein, quand on achetait un ordinateur Apple de 1000 euros, on le revendait 2 ans après, il coûtait encore 1000 euros. Quand on achetait un portable équivalent, bah, il était un peu moins cher, un PC portable. Par contre, 2 ans après, il était en miettes, quoi. Les charnières étaient pétées, l'écran marchait moins bien, le lecteur de CD était cassé, il manquait des touches. Donc, acheter un MacBook parce que juste il y avait Bootcamp, non, je pense pas. Mais s'intéresser au Mac et l'acheter et être rassuré, parce que si on avait besoin, on pouvait quand même retourner sur Windows. Et puis, ben, faut pas se cacher, notamment pour jouer, hein. C'était une grosse machine à jeu, Bootcamp. Ça servait, à mon sens, soit pour des logiciels très spécifiques, hein, du genre au boulot, on me demande de lancer un logiciel pour je sais pas quoi, donc j'ai Bootcamp. Ça servait aussi pour mettre à jour des appareils électroniques, je sais pas, un lecteur MP3, un machin où la mise à jour ne pouvait se faire que sur Windows. Et puis, ouais, pour les jeux. Mais c'était pas que ça, hein, le passage à Intel, c'était vraiment pas que Bootcamp, hein, parce que, et notamment pour nous, les utilisateurs de Mac, c'était la puissance. Parce qu'on n'était pas nombreux à avoir eu des G5. Bah, là, la plupart des utilisateurs de Mac sont passés soit du G3, soit du G4 à Intel. Donc la puissance du G5, l'espèce de machine de guerre issue du monde des serveurs, quasiment personne n'y avait droit, à part quelques professionnels. Donc on a vu arriver des cordes duo, il y avait un double cœur, et puis alors, je ne sais pas si c'était dès les premières générations, mais assez vite, il y avait 4 cœurs virtuels. Ça ne chauffait pas, et puis surtout, ça évoluait très régulièrement. Quand on avait connu le G4 ou le G5, on était resté coincé dans les mêmes processeurs, les mêmes fréquences pendant je ne sais plus combien, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Là, tous les 6 mois, tous les 12 mois, on avait un nouveau processeur, une mise à jour, un modèle plus évolué, etc. Et puis évidemment, Pierre l'a rappelé tout à l'heure, le MacBook Air, un design extraordinairement fin. On l'oublie à nouveau, c'est pareil, aujourd'hui n'importe quel PC de chez Dell ou je sais pas quoi, ou de chez Xenovo, il ressemble à un MacBook Air, mais à l'époque, les ordinateurs portables PC, c'était des machins qui faisaient 3 cm, 4 cm d'épaisseur. Et là, on sort un MacBook Air, bah, le bidule il fait 1,4 cm au plus épais, sur l'avant du clavier, il est plus fin qu'un crayon. Ah, c'était extraordinaire de voir arriver ça et ça. Il ne faut pas se voiler la face, ça a été possible parce qu'on était passé chez Intel. Et la dernière chose aussi, je pense quand même que sur certains aspects, ça a normalisé le Mac. On a vu, de la même manière que la guéguerre Mac-PC, Mac-Intel, Mac-Windows s'est apaisée à ce moment-là, on a vu aussi une normalisation du Mac. Avoir un logiciel qui sortait pour Mac et pour PC en même temps, ça devenait assez normal. Un site web qui marchait aussi bien sur Mac que sur PC, ça devenait normal. Alors, ce n'était pas forcément directement lié au fait qu'on avait un processeur Intel dedans. Hein. Il y avait plein d'autres choses, tout un travail d'Apple derrière et de normalisation au sens ISO. Il y a beaucoup de logiciels, beaucoup de technologies qui ont été normalisées à ce moment-là. Mais voilà, ça s'est fait en même temps et ça faisait du bien de pouvoir être sur Mac et de ne plus être un extraterrestre.
Ouais, je pense aussi, moi, ce que j'ai vu beaucoup sur des forums au fil des années, c'est que ça a rassuré les utilisateurs, parce que tu disais que personne n'achète un Mac pour installer Windows, et ça c'est probablement vrai, mais par contre je voyais beaucoup de gens qui se disaient « je vais acheter un Mac, Et si je ne me fais pas macOS, j'installerai Windows.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, ça arrive probablement, c'est arrivé probablement très rarement que les gens ne se fassent pas vraiment un macOS ou décident de n'installer que Windows. Mais voilà, arriver en se disant, s'il y a un problème, je peux revenir à Windows, c'était vraiment quelque chose qui était, voilà, ça rassure, simplement.
Ouais.
Apple n'a pas encore abandonné la prise en charge d'Intel, mais on sent que ça arrive. Qu'est-ce qu'il manque de Sequoia sur les Mac Intel, Pierre ? Est-ce que tu penses que les propriétaires de Mac Intel ils vont avoir une mauvaise surprise à la prochaine WWDC ?
Je sais pas trop. Alors, bon, faut bien se dire que les derniers Mac Intel, ils commencent à être vieux. Hein. Il y a quelques Mac qui sont sortis en 2019 et 2020, mais assez peu.
Ouais.
La majorité, quand même, ils datent plutôt d'avant.
Après, ils ont été vendus assez tard, non ? Je crois que c'était, il y avait des Mac Mini jusqu'à 2022-2023, non ?
Non, le 2018 est resté en vente à peu près jusqu'à l'arrivée du M1.
Ouais.
Il y a eu quelques modèles de MacBook Pro, je crois qu'ils ont resté un petit peu au catalogue pour garder un modèle en réserve, mais dans l'ensemble, je pense que, à part s'ils n'ont pas envie de vexer les gens qui ont, les quelques personnes qui ont acheté un MacBook Pro, un Mac Pro en 2019, ou les derniers MacBook Pro, ils pourraient le supprimer cette année. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, ça c'est sûr. De toute façon, on a fait un article dessus il n'y a pas très longtemps, on a digé. Il y a plein de choses qu'on n'a pas accès sur les Mac Intel. Hein. Voilà. L'OS, il fonctionne. On a accès à certaines choses, mais pas tout. Il y a vraiment beaucoup de choses, tout ce qui est lié à l'IA, mais au réseau de neuronaux en général, fonctionne pas sur les Mac Intel. Donc on a techniquement un OS à jour avec Safari à jour, par exemple, pour ceux qui utilisent, mais quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent tout simplement pas. Ouais. Il y a pas de 3D dans... Bêtement, il n'y a pas de bâtiment 3D dans plan, enfin, il y a quelques trucs comme ça. L'intérêt d'abandonner les puces Intel, c'est que ça permettrait de réduire un peu la taille du système et simplifier le développement de macOS, parce que ça évitera aux ingénieurs d'Apple de devoir gérer deux jeux d'instruction. Mais de toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour la majorité des gens, hein, je veux dire, même si... Pas à court terme, en tout cas, même si on n'a pas le dernier macOS, les applications se lancent. Il faut vraiment aller assez loin maintenant pour avoir un système qui commence à poser des problèmes. Donc, même si vous avez encore un Mac Intel et qu'il n'est plus mis à jour au niveau du système, on en a encore pour au minimum 2 ans à pouvoir l'utiliser sans problème particulier. Ouais. Je pense. Et puis après, bah, du coup, les Mac Intel, ils gardent quelques avantages, c'est bizarrement. D'un point de vue purement technique, il y a un truc où Apple n'a pas réussi à faire quelque chose de bien, c'est la gestion de l'USB. Les Mac Intel sont toujours plus rapides. Parce que Intel est dans les sociétés qui a créé l'USB et que c'est très très optimisé. Et donc, ouais, pour les gens qui utilisent des disques durs externes, moi j'ai un Mac Mini 2018 à côté de moi, il est toujours plus rapide qu'un Mac Mini M4 sur certains transferts. Bon, ça se règle avec le temps, puisque le M1 était vraiment plus lent, avec le M4 c'est un peu mieux, mais voilà. Après, c'est surtout que les Mac Intel, dans une certaine mesure, en tout cas, on peut les mettre à jour. Ce qui n'est pas du tout le cas des Mac Apple Silicon. Hein. Donc, on peut augmenter la RAM.
Ouais, ouais.
Voilà, mon Mac Mini à côté de moi, il a 64 Go de RAM. Et ça m'a coûté 130 €. Ce qui est impossible sur un Mac Apple Silicon. Même chose, un Mac Pro de 2019, on peut mettre 1,5 Tera de RAM. Personne ne va jamais le faire à part pour faire une vidéo YouTube pour dire combien d'onglets est-ce qu'on peut ouvrir, mais c'est possible. On peut installer une carte graphique externe. Il y a plein de choses qu'on pouvait encore faire à peu près quand c'était une architecture à peu près connue, qu'on ne peut pas faire sur l'Apple Silicon. Moi, la principale raison pour laquelle je garde un Mac Intel, bêtement, c'est que j'utilise parfois des vieux systèmes.
Ouais.
Et donc, on installe plus facilement Linux, on installe plus facilement macOS en externe, ou une vieille version de macOS. Quand j'ai besoin de virtualiser une vieille version de Windows, justement, pour mettre à jour du vieux matériel, pour gérer plein de choses, virtualiser Windows XP sur un Mac Intel, c'est très simple et ça marche bien. Sur un Mac Apple Silicon, c'est horrible, hein. C'est très lent. Donc. Ouais. Sur un Mac Apple Silicon, on peut éventuellement virtualiser Windows 11, mais du coup, on va reposer sur de l'émulation derrière. Donc, c'est pas C'est pas très intéressant ni très pratique, alors que voilà, un vieux Mac Intel, ça fait tourner plein de versions de Windows si on en a besoin, avec du matériel très connu, très cadré, et on sait que ça fonctionne bien.
Ouais. JB, comment s'est déroulé l'abandon d'Intel? On a vu que ça a été progressif et que ça a pris plus de temps que pour quitter le Power PC. C'est surtout le Mac Pro qui a traîné la patte, il me semble.
Bah oui. En fait, on ne peut pas vraiment comparer les deux transitions parce que à l'époque du passage à Intel, c'était plus simple. On l'a dit, l'alliance Power PC, elle était dans les choux. Intel était meilleur dans toutes les gammes. Donc Apple n'avait rien à perdre. Donc elle a basculé très très vite. Là, l'abandon d'Intel, il est moins évident finalement parce que c'est pas un souci en soi, Intel. Le souci, c'est qu'on peut faire mieux dans certaines parties de la gamme. Et Intel, bon, on dit Intel, mais AMD est encore meilleur, sur des puces très puissantes et qui consomment énormément d'énergie, par exemple, Intel reste tout à fait compétitif. Donc, c'est plus compliqué pour Apple d'abandonner rapidement toute la gamme avec les anciens processeurs Intel, parce que ben, abandonner un ordinateur, un Mac Pro, hein, typiquement, et en lancer un nouveau qui va moins vite, c'est pas évident. Et on l'a encore vu là, avec l'épopée du M3 Ultra, M4 Extreme, M4 Pro, on s'y perd là. Bah même chez Apple, c'est pas évident finalement. Pour avoir le Mac le plus puissant, il faut en prendre un de la génération M3 parce qu'il y va plus vite que le M4 actuel le plus puissant. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué cette fois-ci. Mais ce qui est bien dans le même temps, c'est qu'Apple n'a pas fait la même erreur. Elle n'a pas relancé ce Core Duo dont parlait Pierre, qui était de la génération d'avant et qui a servi de processeur d'entrée de gamme sur un Mac mini et sur un iMac, même si c'était vite rattrapé. Mais il y a quand même des clients qui ont eu l'impression de passer chez Intel parce que c'était mieux. Et puis 6 mois après, on leur a dit, bah, en fait, ton truc, il est pourri, quoi. C'est un 32 bits alors que maintenant tout le monde est en 64. Et puis ben, les mises à jour, dans 18 mois, tu ne pourras plus les avoir. Là, au moins, cette fois-ci, avec le passage aux puces ARM, ça va peut-être un peu moins vite, mais quand même, ça paraît plus propre. On a moins l'impression que c'est subi. Ça paraît quand même plus choisi. L'autre aspect, c'est que à l'époque, Apple, elle avait joué sur deux tableaux. Elle avait gardé certains designs extérieurs. Pour rassurer, elle en avait changé d'autres, elle avait changé des noms, on avait oublié l'iBook pour passer au MacBook, le PowerBook était devenu le MacBook Pro. Là, cette fois-ci, c'est plus soft aussi. C'est-à-dire qu'on met M1, M2, M3, etc. derrière le nom de l'ordinateur. On ne change pas trop les designs, ou quand on les change, c'est de manière assez consensuelle pour des modèles plus petits. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui est peut-être voilà, moins urgent dans la transition actuelle. Et puis surtout, comme le discours c'était non pas les promesses n'étaient pas tenues, c'est la cata, le discours aujourd'hui c'est on peut faire mieux, et notamment en performance par watt. Donc Apple se lance sur les modèles où il y a le plus de marge de manœuvre, le plus de marge de progression sur la question de la performance par watt. Et d'ailleurs, le principal élément dont on discute, finalement, c'est pas tant la performance, même si le M1, on a beaucoup parlé de performance parce qu'il est impressionnant, mais il est impressionnant par rapport à sa consommation. Donc finalement, le bon critère, le bon élément marketing, c'est l'autonomie. Et alors là, l'autonomie, par contre, on en bouffe à toutes les sauces. La grande avancée des processeurs ARM, finalement, c'est l'autonomie. Et ça, c'est totalement indiscutable.
Pierre, à quoi ça ressemblera un Mac de 2025 avec un processeur Intel?
Bah, en fait, je pense que ça aurait pas un processeur Intel, ça aurait probablement un processeur AMD, parce que Intel, voilà, j'en ai parlé, mais ils ont vraiment eu du mal à sortir de la période 2005-2020. Là, ils sont un peu remontés, mais ils ont quand même de gros problèmes, ils vont mal. À côté de ça, AMD, bah, ils ont sorti donc les Ryzen. On est à la 5e ou la 6e génération. Toutes les versions ont été réussies, ça marche bien. Et il permet d'avoir des choses intéressantes. Si Apple avait gardé des processeurs Intel, en fait, par exemple, on pourrait avoir l'équivalent d'un MacBook Air. Oui. Donc quelque chose de très fin, très autonome et sans ventilation. Mais par contre, ce serait lent. C'est le problème des puces Intel qui consomment peu. Ils ont des trucs qui permettent des autonomies du même ordre qu'un MacBook Air, hein, une vingtaine d'heures. Mais c'est beaucoup moins rapide. Et du coup, on aurait des MacBook Pro qui seraient sûrement aussi rapides que ce qu'on a actuellement, parce qu'on peut arriver à peu près au même niveau de performance, même chose. mais avec des ventilateurs qui tournent beaucoup plus et qui font beaucoup plus de bruit. Il y a plein de choses, en fait, comme ça, voilà, même tout ce qui est lié à l'IA. Si on était resté sur des puces Intel ou si on avait des cartes graphiques Nvidia, si on était resté dessus, n'importe quelle carte graphique Nvidia a une puissance de calcul beaucoup plus élevée que le composant qu'il y a dans les Mac pour faire de l'IA. C'est juste que c'est lié aussi à une consommation beaucoup plus élevée. Parce que c'est la carte graphique qui le fait, donc ça consomme énormément d'énergie, donc ça fait du bruit. Donc Apple ne pourrait probablement pas jouer sur les mêmes leviers qu'actuellement. Ce qu'ils mettent en avant, ce que JB disait, c'est l'autonomie. Et aussi le fait que les Mac sont quand même extrêmement silencieux. Un Mac mini, ça ne fait pas de bruit du tout. Sauf si on le pousse très fort dans ses retranchements. Alors que le moindre mini PC, ça souffle assez rapidement, en fait. Donc voilà, c'est plus une question de choix. Ils auraient pu rester sur des processeurs Intel. Je pense que voilà, c'est juste qu'ils ont fait des choix liés à la finesse, à l'autonomie. Et c'est logique, parce que la grosse majorité des ventes d'ordinateurs, c'est des ordinateurs portables, que ce soit chez Apple ou chez d'autres. Hein. En gros, le marché actuel, c'est 80% des PC qui se vendent dans le monde, enfin ordinateurs au sens large, c'est des portables. Les 20% qui restent, c'est essentiellement soit des ordinateurs d'entreprise, parce que c'est moins cher d'avoir une tour quand tu fais une entreprise et que tu dois équiper plein de gens, et les joueurs. Mais le reste, c'est du portable. Ouais. Donc voilà, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des puces qui consomment peu. Et AMD fait ça très bien pour le moment. Pendant des années, c'était impossible de recommander de l'AMD. Depuis les Ryzen, depuis 4 ou 5 ans maintenant, ils sont d'excellente qualité, et dans le Steam Deck ou dans les consoles Asus et ce genre de choses, c'est des processeurs AMD à cause de ça, parce que c'est vraiment très bien.
On n'aurait pas non plus d'app iPhone iPad, du coup, vu que c'est pas la même architecture.
On les a pas vraiment, en fait. Sur le papier, c'est possible, mais en vrai, il y a beaucoup d'applications qu'on ne peut pas lancer sur un Mac. Et puis, si, on pourrait, parce qu'en fait, ils pourraient proposer des binaires universels. Enfin, je veux dire aux développeurs, envoyer deux versions compilées, une pour les Mac pour Intel. C'est juste un problème de système d'exploitation derrière. Ouais. Techniquement, on peut faire des applications qui fonctionnent sur un Mac Intel, sur un Mac ARM et sur un iPad de la même façon. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez rare, ça demande un peu plus de travail. Ouais. Mais c'est pas vraiment un problème. Et puis, moi, j'essaye régulièrement d'installer des applications iPad sur mon Mac. C'est juste que dans la majorité des cas, t'as pas le droit.
Oui, ouais.
Les développeurs ne le permettent pas.
JB, en prenant un peu de recul sur la façon dont fonctionne Apple, cet abandon était prévisible finalement ? Apple, ils ont l'habitude de chercher à maîtriser tous les aspects de leurs produits.
J'ai envie de répondre oui et non. parce que je pense que c'est pas si simple, en fait. C'est pas qu'une question de maîtriser la production des pièces, finalement. Parce que Apple fabrique pas ses batteries, elle fabrique pas ses écrans, elle fabrique même pas ses processeurs, finalement. Elle les conçoit, mais elle les fait fabriquer par d'autres. Ouais. Donc, je pense qu'on peut pas résumer ou penser que c'est simplement qu'Apple veut garder la main, on va dire, sur les usines. Je pense que c'est plus complexe que ça, et en fait, je pense qu'il vaut mieux aborder la question sur l'aspect justement non seulement de la transition, mais de la rupture. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu l'histoire d'Apple, on se rend compte que sa spécificité, c'est pas seulement la transition, parce que beaucoup d'entreprises savent faire des transitions. Microsoft en fait régulièrement aussi, hein, quand ils changent de système Windows, qui font une grosse mise à jour, ils sont tout à fait capables de passer à une étape, à une génération suivante. Par contre, la spécificité d'Apple, c'est, je pense, qu'elle fait de la rupture. C'est-à-dire qu'en gros, elle tue la génération précédente, elle ne garde quasiment rien, et elle passe à la suite. Et après, les clients y suivent, ils ne suivent pas, généralement ils suivent d'ailleurs, mais c'est plus son problème. Et je parlais tout à l'heure de Code Warrior. Code Warrior, c'était l'environnement de développement de quasiment tous les développeurs pour Mac dans les années 90. C'est-à-dire que quand on faisait une application, on avait plusieurs choix, mais globalement, Code Warrior, c'était l'usine à gaz qui permettait de créer les logiciels les plus importants. Apple est arrivée là-dessus et elle s'est dit, elle a vu la difficulté que ça posait quand ils sont passés au processeur Intel. On en parlait tout à l'heure, avec tous les logiciels qui étaient optimisés, les Office, les Photoshop et autres qui étaient optimisés pour le PowerPC, quand Apple a voulu passer au processeur Intel, elle s'est retrouvée bien embêtée parce que les gros logiciels ne pouvaient pas suivre. Donc elle a fait quoi ? Elle a dit, on va proposer notre propre environnement de développement. Alors au départ, c'était un petit environnement parce que ça nous amuse, parce qu'on sait faire, essayez donc, mettez la main dedans. Et puis c'est devenu le seul environnement de développement autorisé pour créer des applications pour Mac, pour iPhone, pour iPad. Résultat, Apple fait ce qu'elle veut de toute la partie compilation des applications des développeurs. Et par exemple, ça c'était extraordinaire, on a vu que les logiciels qui utilisent l'interface de programmation Metal, qui est une interface graphique très utilisée dans les jeux, toute la partie que les développeurs ont faite pour leurs processeurs, pour leurs applications Intel, elle est réutilisée telle quelle, sans que le développeur ait rien à faire, en bypassant Rosetta. C'est-à-dire que Rosetta réinterprète tout ce qui est écrit en code Intel, mais toute la partie du logiciel qui est écrite en Metal est directement envoyée au processeur Apple Silicon, au M1 ou M2, qui lui ne perd pas un seul instant à redécoder ou à recompiler ou à interpréter le code Metal. Et en fait, quand on regarde un petit peu toute la période Intel, en fait, les 10 ans qui ont précédé le passage aux puces Apple Silicon, on se rend compte que tout le boulot d'Apple a été fait pour faciliter les transitions. Alors moi, quelque part, je trouve ça génial, parce que imaginez qu'au moment où on passait sur Intel, quelqu'un, quelque part, chez Apple, avait déjà l'idée qu'un jour, ils passeraient sur leur propre processeur. Il y a plein d'indices qui font penser à ça, parce que l'iPhone, il est passé sur les processeurs Apple Silicon, qui ne s'appelait pas encore comme ça, mais c'est l'idée, bien avant le Mac, parce qu'Apple a racheté des tas d'entreprises spécialisées dans les processeurs ARM, bien avant de créer ses propres processeurs. Donc, l'idée que, chez Apple, on se préparait, alors, soit à passer sur ARM, soit en tout cas à mieux gérer la transition suivante, au moment même où on disait à tout le monde, grande nouveauté, on passe chez Intel, je trouve ça absolument génial. Il y a un autre exemple, c'est Grand Central Dispatch. C'est la gare de triage de toutes les instructions de vos logiciels et de tout le système. C'est-à-dire que toutes les applications qui tournent en même temps, elles envoient au système leurs instructions en disant « calcule-moi ceci, calcule-moi cela, mets ceci en mémoire, récupère ceci en mémoire », et elles donnent un niveau de priorité. Et ensuite, c'est le système, c'est macOS 10 qui décide de la manière dont les différentes commandes vont être traitées, qui passent en priorité, qui passent plus tard, et tout ça, c'est totalement fluide. Et ce qui est génial, c'est de se dire que ça a été lancé assez vite après le passage au processeur Intel. Alors certes, il y avait 2 cœurs, voire 4 cœurs virtuels sur les processeurs Intel, mais est-ce que déjà Apple se disait, si un jour on passe sur ARM, on aura des machines avec 16 cœurs, avec 32 cœurs, avec des cœurs spécialisés, graphiques, des réseaux de neurones, des choses comme ça. Et tout ça, finalement, ça a facilité la transition. De la même manière, Apple a bloqué un nombre d'interfaces de programmation, les API dont on entend parfois parler. Elle a bloqué, au cours des 10 années qui ont précédé le passage au processeur ARM, un nombre incalculable d'API en disant, non, celle-là, elle est interdite dans les logiciels pour Mac. QuickTime a basculé d'une génération à l'autre. Les développeurs sont repartis de zéro. Ça gardait le nom QuickTime, mais ça n'avait plus rien à voir. Tous les anciennes, les QuickDraw, les machins, et sûrement des tags que je ne connais pas, c'est des interfaces de programmation qu'Apple a sabrées, parce qu'elle s'est dit, la prochaine fois qu'on change de plateforme, qu'on change de plateforme matérielle ou logicielle, parce que macOS 10, un jour ou l'autre, sera remplacé par autre chose, peut-être que la plateforme ARM, un jour, sera remplacée par autre chose. Pierre parlait de la technologie RISC-V, qui peut-être un jour remplacera les processeurs de type ARM, mais en fait, tout ce qu'on reproche à Apple régulièrement, on dit avoir un système qui est fermé, être intransigeante envers les développeurs, interdire tous les accès directs au processeur, les accès bas niveau, les extensions, l'ouverture matérielle, les cartes graphiques externes, tout ça. Finalement, tout ça, ça permet à la marque, quand elle décide de changer un aspect technologique important de ses machines, de le faire sans que nous, utilisateurs, on s'en rende compte et sans qu'on en souffre. Et toi, dans le même ordre d'idée, la puce T2, c'est un peu pareil. On était encore sur des processeurs Intel, mais quelque part, Apple se préparait le terrain. Elle mettait sa puce qui était déjà une puce Apple Silicone qui cachait son nom, qui reprenait la main sur l'ensemble de l'ordinateur, et notamment sur le démarrage, sur la répartition de toutes ces commandes qu'il faut envoyer vers le processeur. Et le processeur Intel, il n'était plus là, en quelque sorte, que comme une sorte de cerveau, de calculateur en arrière-plan. Nous, les utilisateurs, on l'a vu comme une volonté d'Apple de nous brider, de nous empêcher de faire ce qu'on voulait sur l'ordinateur. Mais non, c'était aussi un élément nécessaire pour Apple, pour que la transition se passe bien pour nous, et que, une fois de plus, il y a une vraie rupture, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, c'est disparu, c'est oublié, et ça ne restera pas, contrairement au monde Windows, ça ne restera pas comme un caillou dans la chaussure qu'on va se traîner pendant 5 ans ou 10 ans et qui empêchera les ruptures et les évolutions suivantes.
Je pense aussi qu'il y a une différence, c'est que, disons que les utilisateurs d'appareils Apple acceptent assez facilement ce changement, en partie parce qu'ils n'ont pas le choix, mais voilà. Mais que des gens comme Microsoft ne peuvent pas faire de transition. Enfin, on le voit très bien avec ce qui va arriver cet automne avec Windows 10 qui disparaît, qui sera plus mis à jour et qui va obliger les gens à passer à Windows 11. Ça se passe très mal pour Microsoft. Beaucoup de gens, en fait, comme ils mettent au rebut des ordinateurs, en gros, tout ce qui est sorti avant 2017 est mis au rebut, globalement. Il y a énormément de gens, et moi j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui ont des ordinateurs un peu anciens, et qui me disent « qu'est-ce que je fais ?» et qui sont obligés de changer d'ordinateur, et ça leur plaît pas particulièrement.
Quoi. C'est à cause de cette histoire de puce de sécurité, c'est ça ?
Notamment, ouais. Oui. Enfin, en gros, l'idée, c'est que Microsoft arrête le support de Windows 10, qui a 10 ans. Hein. Voilà. Donc ils ont dit « on arrête, on ne met plus à jour, sauf si vous payez éventuellement ». Ce qui oblige à passer sous Windows 11, et Windows 11, oui, elle pose notamment la présence de la puce sécurité, quelques optimisations sur les processeurs, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que, en gros, si on a un ordinateur qui date d'avant 2017-2018, il ne peut pas accepter Windows 11 sans tricher, et qu'il ne sera pas nécessairement possible de tricher à ce moment-là, et donc, oui, moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit « qu'est-ce que je dois acheter ?» et « est-ce que je peux... » éventuellement passer sur Mac en se disant bon.
Eh ben, dis-leur d'acheter un iMac 27 pouces de 2015 comme le mien et installe-leur Sequoia. Ça marche très bien là avec le petit programme qui va bien pour forcer la main, OpenCore. Et puis peut-être que ça, tu ramèneras.
Sauf qu'ils pourront plus le faire après. Non, mais voilà, je pourrais aussi leur dire d'acheter Windows 11, mais en sachant que ça va peut-être être bloqué d'une façon ou d'une autre. Parce que du coup, dire aux gens qu'il y a un ordinateur qui a souvent plus de 15 ans, parfois. Parce que qui a déjà peut-être connu autre chose que Windows 10, que en fait, oui, Apple c'est très bien, mais en gros, ils font du support, on va dire, pour 7 à 8 ans. Au-delà, c'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément une solution, parce que des gens qui ont du mal à faire le passage de Windows 10 à Windows 11 à cause du changement d'interface ne vont pas nécessairement apprécier les changements qu'Apple fait de façon beaucoup plus régulière.
Pierre, on en est où chez Intel après leur année 2024 qui était très compliquée ? Ils remontent la pente ou ils sont toujours la tête dans l'eau ?
Non, ils sont toujours la tête dans l'eau. Ça va pas mieux en fait, parce qu'ils sont coincés entre un concurrent qui est meilleur, en tout cas pour le moment, qui est AMD. Ouais. Un virage de la mobilité qu'ils ont complètement raté, mais enfin, ça on peut le mettre sous le tapis, c'est fini depuis 5 ans, voilà. Et un marché global historique qui s'effrite parce que du coup il y a moins de gens en fait qui achètent des PC bêtement. Là, les gens ils ont des smartphones, ils ont des tablettes, ils achètent pas nécessairement un PC, donc c'est pour ça que c'est un problème justement le changement de Microsoft dont je parlais, c'est qu'il va y avoir un gros renouvellement. Voilà, dans le marché, les joueurs prennent de l'AMD, les gens qui veulent des ordinateurs portables, ils prennent de l'AMD ou des Mac, les mondes des serveurs, ils passent à de l'ARM, et donc Intel, ils ont un problème de part de marché, et puis surtout, ils ont un problème qu'ils n'ont pas de nouveautés, ils ont des processeurs qui n'évoluent pas, ils ont besoin d'argent, qu'ils n'ont pas. Ils sont dans un... dans un domaine où voilà, la stabilité politique aux États-Unis n'aide pas vraiment. Pour le moment, ils essaient de sauver les meubles. En gros, ils avaient racheté Altera, donc c'est une société qui fait des puces programmables, les FPGA. Ils ont acheté ça il y a quelques années, ils viennent d'en revendre la moitié, en perdant de l'argent au passage, mais ça permet de faire rentrer des liquidités. Mais ils perdent des parts de marché dans plein de domaines et ils n'ont pas de solution à court terme pour reprendre des parts de marché. Ils ont la chance que Qualcomm, qui est arrivé dans les PC portables pour faire des PC portables sous ARM, sous Windows, bon, ça s'est planté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Intel. Mmh. Mais oui, dans un sens, même, ils ont essayé de faire des cartes graphiques aussi, par exemple. C'est un échec. Ouais. La première génération s'est vendue pas trop mal parce que Nvidia préférait vendre des cartes pour faire de l'IA. Et pour plein de raisons. La deuxième génération est sortie fin de l'année 2024. C'est pas vraiment une réussite au niveau des ventes. Mmh. Puis c'est des puces de milieu de gamme, donc ils ne savent pas du tout faire des cartes graphiques haut de gamme, parce que ils ont pas, c'est trop compliqué pour eux. Mais dans l'ensemble, ils vont mal, ils ont encore changé de PDG assez récemment, ça ne va pas s'améliorer. Et ils ont juste le seul avantage pour les Américains, que c'est une grosse boîte américaine, qui est une des rares à faire des processeurs. Donc on peut supposer que le gouvernement américain ne devrait pas les laisser mourir. Mais c'est même pas certain quand on voit comment ça se passe pour le moment.
Ouais.
Voilà, disons, c'était un géant, donc ça reste quand même une boîte qui garde une certaine aura, même si en vrai, ils valent beaucoup moins d'argent qu'à une époque, ils vont mal, ils doivent vraiment licencier beaucoup de gens, de couper dans tout ce qu'ils faisaient à côté, et ils ont raté plusieurs virages importants au niveau technologique, et ça va pas se régler en 2025 et ça va peut-être jamais se régler. Peut-être qu'à un moment, ils vont devoir vendre leurs usines, par exemple, de fabrication de puces. Ils vont peut-être devoir s'en séparer. Ouais. Alors que c'était la raison pour laquelle Intel était un géant pendant un moment, c'est qu'ils faisaient leurs processeurs eux-mêmes.
Eh bien, merci à vous deux pour ce retour sur l'ère Intel chez Apple qui est définitivement derrière nous. On attend maintenant de voir si macOS 16 coupera définitivement le cordon avec ses modèles. On aura la réponse lors de la prochaine WWDC qui aura lieu le 9 juin. Pierre, à la prochaine.
Merci.
JB, merci d'être passé, à bientôt.
Je t'en prie, à bientôt Félix, au revoir Pierre.
Au revoir.
Et nous on se dit à très vite pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.